Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On va parler d'éducation. La rentrée en 2022 s'annonce très différente de celle de 2021. Ça va ressembler à une rentrée, disons, normale, sans les masques, sans le concept de bulle classe. On se croise les doigts, en tout cas, autant pour les élèves que le personnel. Et ça, c'est autant au primaire qu'au secondaire. Il y a encore, par contre, des questions dans le milieu scolaire, malgré les annonces du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On en parle avec Simon Landry, enseignant au secondaire. Il a fait partie du groupe d'experts indépendants qui a retravaillé là, le concept de bulle classe pour la dernière année scolaire. Monsieur Landry, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, écoutez, les activités scolaires, les sorties vont être permises, mais il va falloir que les jeunes entre 12 et 17 ans soient vaccinés à 75 % avec les deux doses. Écoutez, vous, est-ce que ça vous rassure ce qui a été annoncé aujourd'hui?
Oui, ça nous rassure. C'est des bonnes nouvelles. Dans l'ensemble, on est content de ce qui a été annoncé. C'est sûr qu'on continue à encourager les jeunes à se faire vacciner, mais l'envers de la médaille, c'est qu'il reste encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas réponse actuellement et qu'on espère avoir des réponses dans les prochaines semaines. On espère juste pas être dans le néant là, jusqu'au 22 août, puis la veille de la rentrée scolaire, ben voici, on est devant une série de problèmes pour ne pas de solution proposée. Donc, c'est plus dans cette optique-là qu'on voit l'annonce de ce matin.
Qu'est-ce qui constitue encore des angles morts là, sur le terrain pour les profs, pour les gens qui travaillent dans les écoles?
Je dirais que deux problèmes principaux. Le premier étant, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont refusé le vaccin advenant qu'il y a un cas positif dans l'école ou dans la classe? Là, on sait qu'il n'y a plus de concept de bulle classe. Donc, si un élève qui est positif, on ne peut plus isoler la bulle classe comme on faisait cette année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on isole l'école au complet? Est-ce qu'on isole simplement les élèves non vaccinés? Est-ce qu'on isole seulement l'élève en question? Est-ce qu'il a le droit à l'enseignement à distance ou non? Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Au primaire, je pense aux tout-petits, par exemple, qui auraient des conditions médicales et qui ferait qu'ils seraient un peu plus à risque, mais là, il n'y a plus de masque au primaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Est-ce qu'ils doivent porter un masque? Est-ce qu'ils sont dans la classe comme les autres? Donc, c'est tous des petits scénarios auxquels les profs, les directions réfléchissent actuellement, mais auxquels on n'a pas de réponse dans l'annonce du ministre Roberge actuellement.
Là, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous savez quels élèves vont être vaccinés, quels élèves ne le seront pas? Est-ce que, comme prof, vous avez le droit de savoir que le petit Kevin n'est pas vacciné?
Je ne pense pas, honnêtement, c'est une très bonne question et c'est pas à moi qu'il faudrait la poser. Je pense que c'est plus des directions d'école ou du centre de service qui pourraient vous répondre, mais je ne crois pas que j'aurais accès à cette information-là. Mais même si je l'avais, je vous dirais, il y a un certain danger de stigmatiser certains élèves. Imaginez qu'il y a un cas positif dans la classe et qu'on doit isoler la classe. Et là, on dit, bon, on doit isoler la classe, mais les jeunes, ils se parlent, ils se connaissent. On doit isoler la classe au complet à cause, justement, comme vous dites, du petit Kevin, que ses parents voulaient pas le faire vacciner. Ben, pauvre enfant, il se fait mettre de côté. Donc, il y a un petit danger avec ça auquel on n'a peut-être pas pensé actuellement. Et c'est ce genre de scénario auquel il faut réfléchir en ce moment. Il faudrait le faire conjointement, là, santé publique, prof, direction d'école et ainsi de suite, pour réfléchir à tous ces petits scénarios-là auxquels on n'a pas de réponse actuellement.
Monsieur Landry, vous avez dit on ne veut pas attendre au 22 août. Moi, je me souviens de la rentrée il y a un an. Il me semble que, sachant que ça avait commencé en mars, les écoles ont fermé un peu partout au Québec quelques jours après le début de la pandémie. Il me semble, dans mon souvenir, là, ça avait été long avant qu'on connaisse les protocoles, le concept des bulles classe. C'est arrivé là, un peu ses fesses, comme on dit.
Oui, ben en fait, il y a une explication très simple à ça. Si vous vous rappelez, le ministre Roberge avait fait en début juin l'annonce initiale de la rentrée, là, les bulles de 5-6 élèves. Tout de suite, en entendant ça, j'en jasais avec ma conjointe qui est pédiatre. J'ai dit, écoute, ça n'a aucun sens, ce concept-là. Ça tiendra jamais le coup. Il faut faire de quoi? On a fait une pétition, on a fait bouger un peu les choses. On a instauré un comité de travail indépendant avec des infectiologues, des médecins, des profs, des directions d'école pour justement réfléchir à comment on peut organiser la rentrée de façon plus intelligente, si on veut, pour que ça soit fonctionnel. Et le gros du problème avait été qu'on avait fait une rencontre avec la santé publique et le ministère de l'Éducation vers la mi-juillet et tous les hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation sont partis en vacances 3 semaines. Et quand ils sont revenus de leurs vacances, on était déjà rendu le 15 août, il restait une semaine, l'école commençait, et c'est là que ça a déboulé vraiment tout à la dernière minute. Donc peut-être que dans le sens où il y a des infirmières, des médecins qui se font refuser des vacances depuis un an parce qu'on leur dit « on a besoin de vous », ben peut-être qu'il y a des gens dans le ministère de l'Éducation qui pourraient peut-être prendre leurs vacances au mois d'octobre cette année à la place et nous aider au courant de l'été là, à organiser notre rentrée adéquatement.
OK, on va reculer la cassette un petit peu, là, 30 secondes. Si c'est venu si tard au mois d'août l'année passée, c'est parce que les fonctionnaires du ministère de l'Éducation n'étaient pas là pour approuver des plans?
C'est essentiellement, c'est ça. Nous, ce qu'on avait remis, c'est un document d'une vingtaine de pages là, avec des pistes de solutions, autant pour la ventilation, les bulles classe, quoi faire en cas d'infection, l'organisation des pauses, des dîners, etc. On avait tout soumis ça au ministère de l'Éducation et au ministère de la Santé. Et quand on a voulu continuer les travaux pour dire, ben voici, qu'est-ce que vous en pensez, faites-nous un feedback, on a recevé des courriels automatiques, je suis parti en vacances jusqu'au 10 ou jusqu'au 15 août, etc. Donc, ces gens-là sont tous partis en vacances durant le mois d'août pour leurs 3 semaines. Et on a pu reprendre, dans le fond, les travaux très, très rapidement autour du 15-16 août. Et le lendemain ou le surlendemain, le ministre Robert faisait son annonce. Et pour son annonce, essentiellement, c'était presque copier-coller du document que lui, on lui avait fait parvenir au mois de juillet. Mais bref, un des problèmes était que, justement, il y a beaucoup de gens qui avaient, au ministère de l'Éducation qui avaient pris des vacances au mois d'août alors qu'on avait besoin d'eux pour nous guider, pour aider les directions d'école, les profs à s'organiser, puis tout le monde était parti. Donc, c'est sûr que c'est fâchant. Moi, ma conjointe est médecin. Elle a plein d'amis qui sont médecins qui se font refuser des vacances depuis les 15 derniers mois en disant « on a besoin de toi dans l'hôpital ». Puis, ben, il y a des gens qui se permettent de prendre 3 semaines alors qu'on essaie d'organiser une rentrée scolaire. C'est sûr que c'est un peu choquant.
OK, je ne ferai pas de commentaire éditorial, mais on va quand même parler de l'importance de solliciter les avis de la base. Parlons un peu, Simon Landry, là, des balles de finissant. Là, présentement, la réponse de Québec, de la santé publique, c'est non, pas de balles de finissant. Vous, là, sur le plancher des écoles, pensez-vous qu'il y a une façon d'organiser des cérémonies pour souligner le départ au cégep et ailleurs dans la vie des finissants du secondaire 5 et que ça se fasse en sécurité?
Je suis certain qu'il y a une façon d'organiser ça de façon sécuritaire. Écoutez, comme j'entendais votre collègue, M. Drainville, plutôt aujourd'hui, qu'ils ont pourrait louer des chapiteaux, etc., faire ça à l'extérieur, il y a sûrement moyen de s'organiser. Je comprends que la santé publique a une inquiétude par rapport à ces rassemblements-là, et eux, ils voient vraiment principalement l'aspect médical, l'aspect épidémiologique. Donc, je comprends leur réflexe de dire « on n'en fera pas ». Par contre, il y a un certain illogisme à dire on accepte 2000 personnes à la plage d'Oka, mais on n'accepte pas 300 jeunes qui veulent faire leur bal de finissant à l'extérieur. Je pense que, justement, comme vous dites, il y aurait moyen pour la santé publique de s'asseoir avec des directions d'école, des profs, des comités d'élèves et de faire ça là, en visioconférence, de dire voici la santé publique pourrait dire voici nous la ligne à ne pas franchir en termes épidémiologiques, voici où on trace la ligne et de voir est-ce que vous avez des choses à nous proposer qui respecteraient ces balises-là. C'est un peu ça qu'on avait fait l'été dernier quand on a instauré le principe de bulle classe, le principe de traçage, etc. Parce que la santé publique, si c'était eux seulement qui décidaient, chaque élève aurait été dans une bulle isolée, mais on leur a dit c'est impensable. Donc, voici le compromis qu'on pourrait faire. Ben, je pense qu'il y aurait moyen de faire la même chose pour les balles de finissant, c'est-à-dire de consulter les gens de terrain, de leur parler, puis de dire, ben vous, comment vous voyez ça? Nous, voici nos inquiétudes, et de trouver une façon de s'entendre, parce que je pense que les jeunes, si on leur en fait pas un bal de finissant, ils vont s'en faire un, puis ça risque d'être plus problématique que si on les encadre puis qu'on les aide à s'organiser.
Merci beaucoup, M. Landry. Bonne fin d'année scolaire.
Avec plaisir, merci.
La grosse nouvelle politique aujourd'hui, c'est que Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, quitte le Conseil des ministres. Il va rester député. Pourquoi quitte-t-il le Conseil des ministres? Bien, ça faisait des mois que la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale le critiquait parce que M. Fitzgibbon a des actions dans 2 compagnies privées et ce qu'elle maintient en lisant le code de déontologie, le code d'éthique des membres de l'Assemblée nationale, Mme Ariane Mignolet, c'est que le ministre de l'Économie était en contravention de ce code. Il est au bout du fil. M. Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
OK, c'est pas la première fois que la commissaire à l'éthique là, soulignait l'incompatibilité de détenir des actions dans une compagnie privée et d'être ministre. Ça, c'est vous. Et vous avez critiqué pour ça. Aujourd'hui, nouveau rapport où elle recommandait que vous soyez éjecté du Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça a changé, ce rapport-là, pour vous, aujourd'hui?
Écoutez, c'est le quatrième rapport sur le même sujet. Écoutez, je pense que vous l'avez bien exprimé. La loi, en fait, la loi dit que la société peut, le ministre plutôt peut détenir des actions dans la mesure où il n'y a pas de transaction avec l'État. Bon, dans le cas des Mervision et des White Star, selon moi, il n'y a pas de transaction avec l'État. D'ailleurs, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts comme tel. Mervision paie ses factures d'hydroélectricité de Québec, fait son rapport d'impôt et repaye un prêt qui avait été contracté en 2016, je pense. Bon, ça étant dit, c'est ma vision des choses. Il n'y a pas eu de conflit. M. Legault l'a bien exprimé. Il n'y a pas jamais eu de malversation. Maintenant, elle juge que je ne suis pas conforme. J'ai essayé de vendre Mervision depuis un an et demi. Je n'ai pas réussi à le vendre. C'est une compagnie qui n'a pas de marché liquide. Alors, moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai vu le rapport qui a 20 quelques pages sur les mêmes sujets parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis décembre. C'est les mêmes choses. Mmh. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, écoutez, moi, j'avais dit ça d'ailleurs à votre collègue, M. Arcan. Moi, je suis dans la politique pour aider. Hein. Alors, si on sent qu'on n'aide pas, ben là, on est mieux de passer à d'autres choses. Alors, moi, je ne veux pas nuire au gouvernement. Je suis très. Je pense qu'on est chanceux au Québec d'avoir M. Legault comme premier ministre. On est chanceux d'avoir un conseil des ministres très solide. Alors, si ma présence était pour causer du bruit politique, ben, je ne voulais pas vivre avec ça. Puis, je pense que c'est préférable que je me tasse au conseil des ministres et laisser le gouvernement continuer à œuvrer.
M. Fitzgibbon, vous l'avez expliqué sur plusieurs tribunes à quel point vendre des actions dans une compagnie privée, c'est pas comme appeler son courtier et dire ben, écoute, vends mes actions dans telle compagnie. Le PM l'a dit aujourd'hui. Mais l'avait déjà dit à mon micro. Puis, je comprends que c'est pas facile. Je comprends que c'est pas facile de trouver un juste prix. Mais néanmoins, ça fait plusieurs mois que vous êtes en contravention de ce code d'éthique au pied de la lettre. Quel message vous pensez que ça envoyait aux citoyens à qui on demande de respecter lois et règlements à la lettre?
Écoutez, il y a une question de contexte. Okay? Je pense que la bonne nouvelle de tout ça, là, c'est que Pierre Fitzgibbon, qui est en fin de carrière, qui était en passant sur des conseils d'administration comme la Caisse de dépôt où les conflits d'intérêts où l'apparence se vit là, tous les jours, il n'y a jamais eu d'enjeu. Alors, tu sais, je pense qu'à la base, là, est-ce que M. Fitzgibbon a causé des dommages et est en conflit? La réponse est non. Bon, la loi, j'ai essayé de vendre. J'ai pas réussi. Alors, écoutez, là, après quatre rapports sans même chose, je quitte le Conseil des ministres, donc je respecte le fait que, bon, dans le contexte actuel, je nie au gouvernement, donc je me tasse. Alors, je pense que c'est correct. Je suis très à l'aise avec ça. Je suis très, très bien avec la décision.
Là, vous vous tassez, vous redevenez, ben, en fait, votre seule fonction va être celle de député de Terrebonne, exact. M. Fitzgibbon. Sérieusement, moi, je vous connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler de vous. Les gens parlent de vous comme d'un homme d'action, un homme bouillant même. Vous ne devez pas avoir trop envie de vous représenter en 2022, là.
Ben, écoutez, je vais répondre différemment. Le travail que je fais présentement, je parle pas de la politique, je parle de ministre de l'économie, c'est pas mal le travail le plus intellectuellement motivant que j'ai eu dans ma carrière. Pandémie, on a travaillé fort. Là. C'est un travail qui était valorisant. Alors, c'est un métier qui, néanmoins, que j'aime. C'est sûr que le contexte dans lequel je œuvre là-dedans et le contexte personnel du code d'éthique, ben là, ça devient compliqué un petit peu. Qu'est-ce qui arrivera? Est-ce que je vais réussir à vendre Mervision ou non dans les prochains mois? On verra. Le jour où je vends Mervision, c'est la situation problématique pour la commissaire d'éthique. Le jour où je vends Mervision, ben là, on verra si je suis réintégrable ou non. Hein.
Mais là, votre état d'esprit, là, aujourd'hui, oui. Hein, ce mercredi, le 2 juin 2021, le jour où vous avez quitté le Conseil des ministres. Est-ce que c'est « je veux vendre à tout prix mes actions dans ces deux compagnies-là et revenir au Conseil des ministres » ou « je vais attendre que la tempête passe puis je me représenterai pas »
Non, pas du tout. Non. En fait, les actions, c'est à vendre. Les Mervision, c'est à vendre. Puis, écoutez, l'enjeu, c'est que, pour être spécifique, il n'y a pas de marché secondaire. Et s'il y avait un marché secondaire, je vendrais. J'ai une partie de mon patrimoine qui est relativement importante dans Mervision.
Une valeur dans les deux compagnies, une valeur d'un million, c'est ça? Hein? C'est ce que dit le PM.
Non, le PM référait à la perte potentielle si je vendais aujourd'hui. C'est plus que ça. Alors, l'enjeu, c'est que, tu sais, moi, je suis prêt à disposer. Les actions sont en vente. Sont disponibles pour être vendues. Le propriétaire de l'entreprise regarde la possibilité que des investisseurs puissent se racheter. Mais ça va se faire dans l'ordre. J'irai pas perdre un million comme ça juste pour dire que je reste là. Alors, mon mindset, c'est de pouvoir en disposer. Mais entre-temps, même comme député, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a aucune situation où le député ou le ministre s'enrichit. Si je voulais m'enrichir, je ne serais pas venu en politique. Alors, je pense qu'il faut mettre un contexte à tout ça. Mais néanmoins, Le rapport est le rapport, puis moi, je soucie à ce rapport-là, puis bon, on va suivre les règles.
Sachant que il y avait une certaine, pas urgence, mais pression de vendre à cause des rapports de la commissaire à l'éthique, M. Fitzgibbon, avez-vous eu des offres qu'on pourrait qualifier en bon Canadien-Français de lowball, quelqu'un qui a essayé d'acheter vos actions à rabais?
Dans le cas d'Immersion, il n'y a eu aucune offre, parce qu'il n'y a pas de marché, point. Dans le cas de White Star, mais White Star, il faut comprendre, c'est un fonds qui est en liquidation, puis le propriétaire, il a vu le rapport, il a dit, écoute, je vais te donner un coup de main si c'est vraiment problématique, je vais t'offrir 50%. Je dis, non, merci. Le fonds est en liquidation, donc il va être liquidé. Et le fonds n'a aucune transaction avec l'État. Donc, en plus, il n'y a pas de transaction. Parce qu'il ne faut pas oublier, un ministre peut avoir des actions d'une compagnie privée dans la mesure où les sociétés n'ont pas de transaction avec l'État. Ça, à la base, c'est ça. Là. Alors, dans le cas de Mme Mignolet, elle a conclu, puis c'est son droit, là. Je respecte ce que je dis, que dans le cas d'Immervision, il y avait un marché avec l'État parce que paye l'électricité, fait des rapports d'impôt et repaye un prêt qui date de 2014. Alors, c'est son droit. Elle a dit que ça, c'est pour elle, c'est un marché avec l'État, donc conséquemment, il faut que je vende. Parfait. Ça fait un an et demi que j'ai demandé à la société, que quand il y aura un investisseur qui se présenterait et qui serait prêt à offrir plus d'argent que la compagnie a besoin, c'est ça l'équilibre des marchés, ben, je vendrai mes actions au prix que l'investisseur entrera et c'est pas arrivé. Ça pourrait arriver dans les prochains 3 à 6 mois, puis quand ça arrive, là, j'aurai une discussion à ce moment-là avec M. Legault.
Mais si c'est pas arrivé depuis un an et demi, il y a-t-il des chances que ça arrive pas?
Ben, tu sais, faut comprendre, des startups, là, des PME, je passe ma vie là-dedans, là, c'est de la croissance. À un moment donné, le point d'inflexion, M. Lagacé, c'est le point d'inflexion, c'est quand il y a plus d'investisseurs intéressés à acheter des actions que les besoins de fonds propres de l'entreprise. Puis, c'est un point d'inflexion, puis les sociétés, cette fois, ça arrive après 1 an, 2 ans, Immervision, ça pourrait arriver très bientôt. Alors, de toute façon, la présidente de l'entreprise, qui est la meilleure vendeuse pour ça, est au courant depuis un an et demi que mon émission sont disponibles. Alors, s'il y a un marché qui va se s'ouvrir, puis c'est possible qu'il s'ouvre, mais comme vous dites, on ne le sait pas, je ne sais pas plus que vous.
Vous l'avez dit, là, le travail de ministre de l'Économie, c'est le travail le plus intellectuellement satisfaisant, stimulant que vous avez fait dans votre carrière.
Absolument.
Là, j'ai rien contre le poste de député, mais là, vous redevenez simple député de Terrebonne. Allez-vous vous ennuyer?
Ben, écoutez, je pense que je suis assez connecté dans l'environnement des affaires, puis peut-être qu'on va me consulter. Hein, moi, j'aurais plus de pouvoir décisionnel, je serai plus dans les journaux, je serai plus à votre émission, mais tu sais, vous savez, le Québec, on préfère de différentes façons. Moi, ce qui m'a motivé à venir en politique en 2018, bon, c'est d'une part aider l'équipe de M. Legault, je pensais que ça prenait un changement, puis je suis fier d'avoir fait, puis je réalise ce qui a été fait aujourd'hui, puis je pense que le Québec est chanceux. Maintenant, comment je peux aider dans le futur? Peut-être d'autres façons, je peux aider aussi. Alors, comme député, oui, ça va être moins demandant que comme ministre, c'est sûr, mais c'est une fonction importante pareil. Puis pendant ce temps-là, je peux aider avec mes connaissances, mes contacts, ben, tant mieux, moi je vais continuer à le faire.
Bien, merci beaucoup, et ben, écoutez, bon repos, je vous le souhaite passager.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Valérie Plante est avec nous. Écoutez, je suis bien content de recevoir Mme Plante. J'aurais voulu recevoir Denis Coderre pour qu'on parle de ses déclarations sur les problèmes que représente la consommation d'alcool. Comme il dit, prendre un coup après 20 heures dans les parcs, je vois pas c'est quoi l'utilité. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un petit peu ridicule. J'aurais voulu lui poser des questions, mais encore une fois, M. Coderre manque de temps, mais il faut parler quand même de politique municipale. On va en parler immédiatement avec la mairesse Valérie Plante. Mme Plante, bonjour.
Oui, bonjour, M. Lagacé.
D'abord, là, allons-y sur les règlements au pied de la lettre. Les règlements pour la consommation d'alcool dans les parcs à Montréal, est-ce que ça relève de la mairesse ou du maire éventuellement de Montréal ou ça relève des arrondissements?
Ben alors, pas du tout de la mairesse, ça relève des arrondissements et c'est pour ça que j'ai invité le candidat à la mairie de faire en sorte, s'il trouve que c'est une si bonne idée, ben que les arrondissements qui sont les siens, si je peux dire, celui et ceux de son parti, mmh. qui appliquent ce règlement-là. Mais pour moi, ça va à l'encontre de tous les efforts, tout le travail qui est fait par les Montréalais, Montréalaises depuis le début de la pandémie. Là, je trouve ça un peu infantilisant.
Donc, si je comprends bien, là, le maire ou la mairesse de Montréal peut pas, de la mairie, là, mm-hmm. imposer au parc de toute la ville d'interdire l'alcool après 8 heures. C'est ça que je comprends?
Exactement. En plein ça, il y a les grands parcs, qui appartiennent. Il y a quelques grands parcs qui sont sous la responsabilité...
Maisonneuve, La Fontaine, Parc du Mont-Royal.
Exactement. Mais pour le reste, tous les parcs locaux relèvent des arrondissements. Alors, ça, en partant, là, il y a un problème dans la compréhension des pouvoirs.
OK. Bon, ben écoutez, moi dans ma compréhension, je pensais que ça relevait de la ville-centre, mais là, vous me confirmez que ça vient des arrondissements. Le maire a aussi évoqué là, les déchets dans les parcs. Pardon. Hey, Madame Plante, toutes mes excuses.
C'est pas grave.
Je vous ai fait perdre l'élection. L'ancien maire a relevé là, les problèmes de déchets. Puis je dois dire, écoutez, pour me promener dans les parcs, moi, je trouve qu'il y a une vie de parc qui est incomparable à Montréal depuis quelques années. Les parcs sont pris d'assaut, ça fait de la vie. Je trouve que c'est à l'image de cette ville festive. Mais là, je comprends que ça ne dépend pas juste de vous. Puis-vous dire aux arrondissements de mettre des poubelles, des containers s'il faut, parce que c'est bien beau de critiquer les gens parce qu'ils laissent leurs déchets partout, mais les poubelles débordent après 30 secondes d'un parc la fin de semaine.
Bien, là-dessus, c'est un fait. C'est-à-dire que même en augmentant le nombre de poubelles, puis surtout, je dirais, d'augmenter le nombre de rondes, hein, c'est-à-dire où on fait la collecte de déchets, dans certains parcs, là, on voit que ça déborde. Alors, toutes les idées sont bonnes, celles d'en ajouter ou même de mettre des containers à certains coins. Donc, il y en a qui en ont, pour être honnête, mais je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être améliorées. Tout est perfectible. Même chose pour les toilettes. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y avait un enjeu, donc on a ouvert les chalets de parc, augmenté le nombre de toilettes. Ceci étant dit, je veux quand même interpeller les Montréalais, Montréalaises ou les gens qui viennent dans les parcs. Quand je dis se ramasser, c'est parce qu'à un moment donné, quand on arrive avec sa petite famille le matin pour aller au parc, puis que finalement il y a des bouteilles cassées ou de ce genre de choses-là, je pense qu'il y a quand même du civisme à mettre en application. Mais honnêtement, de façon générale, ça se passe quand même bien, là.
Ça se passe bien, mais on en a parlé, vous et moi, là, pour la question des toilettes. Vous le savez, 60% des Montréalais n'ont pas accès à une cour.
Exactement.
Donc, s'ils veulent prendre l'air, c'est bien beau marcher ces trottoirs, mais on va dans les parcs. C'est parfait. Mais écoutez, au parc Maisonneuve, il y a deux petites toilettes sèches, puis je peux vous dire que tu veux pas rentrer dans la toilette sèche après 3 heures. C'est-tu moyen d'en mettre plus?
Absolument. Puis en fait, on en a commandé au début de la saison. Dans certains endroits, il y en a qui se sont rajoutés. C'est sûr qu'avec l'ouverture des terrasses, pas pour dire qu'un remplace l'autre.
Voulez-vous vraiment parler des terrasses?
Ben oui, ben c'est coudon, hein. Il faut pas, je l'ai assumé. Fait qu'à oui. faire, on peut. C'était drôle. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais dans le vieux Montréal. Il y a beaucoup de citoyens qui m'ont taquiné avec ça, mais c'est correct. C'est la vie, là. Mais on fait une erreur, on le dit, puis on avance. Mais pour revenir aux terrasses, je pense que d'ouvrir les terrasses, mais aussi les restaurants, ça va aussi enlever une certaine pression sur les parcs qui sont depuis un an le seul et unique lieu de socialisation permis. Et encore une fois, c'est là où je me dis, on ne va pas priver les Montréalais en disant, bon, ben après 20 heures, plus d'alcool, une règle qui existe depuis 30 ans, là, que ça a changé il y a 30 ans, là, on ne va pas revenir en arrière, mais on ne va pas pénaliser les gens, dont les familles, qui vont dans les parcs pour pouvoir socialiser, prendre un verre entre amis. On en a bien besoin pour notre santé mentale, là.
Denis Coderre a parlé du sentiment d'insécurité en ville. On en a parlé, vous et moi. C'est un problème, là. Il y a des fusillades qui sont de plus en plus nombreuses. Il y en a eu deux en fin de semaine dans le Vieux-Montréal et dans le centre-ville. Écoutez, votre parti flirte avec des idées de définancement de la police et Denis Coderre vous le reproche. Est-ce qu'une mairesse de deuxième mandat, Valérie Plante, définancerait d'une façon ou d'une autre la police?
Alors, la réponse est non. Je me rappelle, je l'ai dit à une de vos émissions précédemment, puis ça me fait plaisir de le redire. Je sais que Denis Coderre essaie de faire du pouce là-dessus, là, mais non seulement pour la mairesse, c'est non, pour la chef de parti, c'est non, ni dans le définancement, ni dans le désarmement. Puis,
Mais dans votre parti, on flirte avec ces idées-là quand même. Puis on sait que les gens sont très militants dans Projet Montréal.
Mais je pense que dans un parti politique, c'est normal qu'il y ait différents courants, différentes idées. Puis moi, je trouve que c'est sain. Mais il y a un moment où on fait des choix stratégiques. Moi, ma priorité comme mairesse, depuis que je suis en mandat, c'est la sécurité des citoyens et citoyennes. Et depuis un an, il y a une montée des incidents violents avec une arme. Alors, c'est évident, pour moi, c'est ça ma priorité. Mais, je ne suis pas du tout dans le désarmement ou dans le définancement.
M. Coderre dit qu'il manque 200 effectifs policiers à Montréal. Est-ce que c'est vrai?
Ben non. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des policiers qui partent à la retraite, il y a tout ce roulement qui doit se mettre en place. Bon an, mal an, il y a toujours eu, avant moi, pendant le temps de M. Coderre, puis avant aussi, il y a souvent comme, comment je dirais, donc, un peu de flottement là, oui. entre
les retraites puis les nouvelles embauches.
Ben c'est ça, exactement. Okay. Mais non, puis il y a des ajouts de policiers qui se font sur une base cyclique, et puis là, on en rajoute justement pour venir porter main forte dans les quartiers où ça brasse.
Merci, Mme Plante. Bonne soirée.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut Patrick.
OK, JC, est-ce qu'on a la citation de M. Coderre? OK, on va écouter M. Coderre sur l'alcool dans les parcs.
Moi, je pense que de prendre un coup après 8 heures le soir, je vois pas la pertinence. Des fois, il faut protéger les gens contre eux-mêmes.
OK, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là?
Ben, protéger les gens, c'était pas une bonne déclaration. Protéger les gens contre eux-mêmes, il y a quelques abus, mais il y en a pas plus que dans les brasseries. Il y en a pas plus que dans les discothèques. Il y en a pas plus que dans les brasseries, je veux dire, ou sur les terrasses. Il y a là où ça a l'air d'un abus, c'est que c'est le nombre de personnes. C'est qu'il y a des parcs, pas tous les parcs, mais il y a des parcs qui sont envahis par tellement de monde que là, c'est dur pour les gens qui habitent en face. Là, on parle évidemment du parc Laurier, du parc La Fontaine. Puis il y a des places publiques aussi dans le Vieux-Montréal, etc., où c'est trop, tu sais, pour les gens qui habitent autour. Puis la magie de Montréal, c'est cette espèce de lien-là entre le fait qu'il y a un quartier résidentiel à peu près partout, même au centre-ville, il y a des quartiers résidentiels. Puis on les veut, ces quartiers résidentiels. On veut une vie de gens qui habitent là. Alors,
mais
il faut les protéger.
Mais y a-t-il un fond de vérité? Est-ce qu'il y a un lien entre, comme il dit, prendre un coup après 8 heures? Si t'es là avec ta famille puis tu prends un verre de rosé avec ta sandwich à 8h15, t'es pas en train de prendre un coup. Mais c'est-tu un problème qu'il y a du monde qui boive, qui consomme de l'alcool dans les parcs?
Oui, c'est un problème. Problème parce que à partir de 22 heures, la fréquentation des parcs est beaucoup liée à l'alcool. C'est-à-dire que de ces parcs-là dont je te parle, là, c'est beaucoup lié à l'alcool. Les gens vont pas jouer à pétanque à 22 heures. Il y en a, mais ils vont avec une bouteille.
Mais de toute façon, pas loin de 22 heures, on ferme le parc. Là. Je pense que c'est
mais
11 heures.
23 là. Heures okay. Dans certains parcs, 24 heures dans d'autres, minuit donc. Mais c'est sûr que à partir d'un certain temps, à un certain moment, il y a des gros rassemblements de personnes qui viennent pour boire. Et là, si tu veux fermer le parc... C'est clair que si les gens sont là avec leur bouteille au milieu, ils veulent pas partir. Ils veulent pas. Alors, l'idée, c'était de leur dire, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus d'alcool. Mais peut-être ça peut être 22, 23 heures. Mais 8 heures, c'est trop tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pour manger à 19 heures avec une bouteille de vin. Il va falloir qu'ils la calent d'un coup, tu sais. Ça marche pas. Fait que ça, c'était pas ce 20 heures-là témoignait peut-être d'une mauvaise compréhension, là,
Ou alors d'une très bonne compréhension de ces bases électorales. Qui essaie de charmer avec ça?
Oui, ça se peut aussi. Là. C'est clair qu'il veut se caractériser, c'est une de ses stratégies, une de ses lignes, c'est de se présenter comme responsable de la loi et l'ordre. Et de la propreté, il va aussi aller de ce côté-là. Mais attention, tu te rappelles de Denis Coderre, je suis content de voir qu'il a changé, mais moi je me rappelle que quand il s'est fait élire, Il était au contraire, il voulait une ville festive. C'était ça son mot à tous les deux jours. Puis,
Denis Coderre voulait étirer les heures de fermeture de certains bars dans un projet pilote à 6 heures du matin en 2014.
Tout à fait raison. En fait, c'était tous les bars, mais il commençait par les bars que il s'est rendu compte qu'il ne contrôlait pas le pouvoir d'arrondissement.
Oui. Encore là, ça relevait des arrondissements.
C'est ça. Alors, il voulait le faire pour Ville-Marie, mais c'était un projet qu'il avait pour les bars du plateau Mont-Royal aussi, pour les bars du Vieux-Montréal. Moi, les abords d'un bar, c'est aussi quelque chose de préoccupant en termes de bruit, en termes de circulation de personnes, de cris. Il faut l'avoir vécu comme maire d'arrondissement. Là, les gens qui viennent te voir semaine après semaine pour te dire, ben moi j'habite à côté d'un bar, puis c'est invivable. Alors ce même Coderre-là, ben, a vraisemblablement changé d'idée. Même Coderre aussi, rappelle-toi que cette espèce de comment je pourrais appeler ça. Désinvolture avec laquelle il a traité Saint-Lambert pour le bruit 60 jours par année, 55 décibels et plus.
Pour les spectacles.
Ben oui. En disant, il va bien falloir qu'ils comprennent qu'ils vivent à côté d'une ville. Puis finalement, la Cour leur a donné raison. 55 décibels, c'est jugé trop élevé, puis c'était trop de jours par année. Donc, vraisemblablement, il a changé là-dessus, au moins. On l'espère, puis j'espère qu'il va comprendre plus la vie de quartier, puis qu'il va comprendre plus l'importance des parcs. Mais en disant 20 heures, je trouve qu'il a montré qu'il comprenait pas. Il a montré qu'il était pas encore rendu au summum de sa compréhension, si je peux dire. Patrick, j'ai deux questions pour toi.
Ah, c'est toi qui as des questions pour moi.
Ouais. Premièrement, sais-tu combien ça coûte une toilette sèche par mois dans un parc? Parce que je t'entends souvent dire que ça prendrait plus de toilettes sèches.
Je n'ai pas la réponse à cette question.
Dis un chiffre.
Ben, je sais pas, 1000 piastres.
C'est 10 000.
OK.
10 000. Peux-tu croire à ça, toi? La toilette, elle vaut pas ça, 10 000, là. Mais pourquoi ça coûte 10 000 piastres par mois?
Il faut l'entretenir.
C'est ça. Il faut qu'elle soit lavée plusieurs fois par jour, il faut qu'elle soit vidée une fois par jour. Puis ça qui ralentit le déploiement des toilettes dans les parcs.
On peut-tu faire des plus gros chalets avec plus de
toilettes? Ben oui, c'est ça. C'est clair. Mais le vidage des poubelles aussi, là, vider les poubelles, oui. Là, c'est aux heures dans les parcs où il y a beaucoup de monde, aux demi-heures des fois dans les parcs, dans les saisons, dans les journées où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, c'est pour ça que ça déborde tout le temps. C'est que il faut prendre les parcs pour ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des lieux de rencontre, puis il faut mettre les ressources qui vont avec, tu sais. Et là, ça va marcher. Des toilettes qui ont de l'allure, des toilettes qui restent ouvertes jusqu'à 23 heures. Et 23 heures, ça veut dire que là, l'employé est soit en temps supplémentaire, soit c'est un auxiliaire qui a été engagé sur cette plage horaire-là. Fait qu'engager un auxiliaire sur une plage horaire de soirée ou de fin de semaine pour aller nettoyer les toilettes, laisse-moi dire que les gens se précipitent pas pour avoir cette job-là. T'sais. Donc, il y a une question d'embauche, mais il faut prendre les moyens. Il faut prendre les moyens pour que ça marche. T'sais. Puis aussi les moyens aussi pour protéger le parc contre un achalandage tellement gigantesque que le parc en vient à être détruit. Là.
Deuxième question.
Ma deuxième question, as-tu décidé de voter pour Valérie Plante?
Ben voyons donc.
J'ai lu ton article ce matin, puis je me suis dit, hey, écoute, il rentre fort dans Denis Coderre.
Ben écoute, comme citoyen, je vais garder mon vote, je vais attendre de voir c'est quoi campagne électorale, mais comme chroniqueur, là, je vais te dire une affaire, OK? Parce que en fait, t'es pas la seule personne à avoir dit ça, là, déjà. Oh, c'est bien, vous êtes pro-Plante. Moi, je suis pro-personne. Vraiment, là. Je décide quand je suis rendu dans l'urne, puis c'est tout. J'ai pas de couleur politique comme telle. Les gens seraient surpris de voir pour qui j'ai voté dans ma vie, Luc. Mais ce que je voulais te dire, c'est d'un strict point de vue d'animateur puis de chroniqueur, je vais te dire une affaire. C'est la fête au village quand Denis Coderre est dans la vie publique.
Il est coloré.
Il donne plus de matériel que Valérie Plante, va te dire.
Ouais,
Madame Plante, tu peux ne pas être d'accord avec sa vision de la ville. Mais je veux dire, t'as pas toujours des controverses, des déclarations, des mensonges. Parce que Denis Coderre, je l'ai souligné dans ma chronique aujourd'hui, il y a plein de mensonges dans son passé. Puis ce qui est drôle, c'est de le voir essayer d'expliquer ses mensonges. Ça devient un sketch, tu comprends?
Mm-hmm.
Fait que d'un strict point de vue professionnel...
C'est un fait. Il a, à quelques reprises... Et tu l'as souligné.
D'un strict point de vue de professionnel qui doit faire des chroniques puis animer des shows de radio, m'a dit, si Denis Coderre est dans la vie publique, ben ça te donne du matériel pas mal plus que Mme Plante.
Bon, ben.
Ça répond à ta question?
Oui, monsieur.
Pour le reste, c'est entre moi
et toi.
Le bulletin de vote. Salut, Luc.
Salut, bye.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.